Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de l'émission Les Témoins de l'Invisible, émission consacrée aux objets volants non identifiés. Je vous propose de rejoindre sans plus tarder Joël Ménard pour la suite de l'entretien, du long entretien qu'il nous a consacré à l'occasion de la parution de son dernier livre Mercure Dauphinois, Affrontement extraterrestre, un titre percutant pour évoquer les aspects les plus dérangeants de ce dossier des ovnis. Nous avons parlé des cas brésiliens des années 80 la semaine dernière. Aujourd'hui, eh bien, voici le menu. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant un sujet, alors je crois peut-être presque aussi, peut-être plus dérangeant encore, c'est celui des mutilations de bétail. Alors, vous savez, il y a quelque temps en France, on a eu une vague de mutilations de bétail, et ma foi, elle ressemblait assez étrangement à ce qui a pu se produire aux États-Unis dans les années 60-70, et même au-delà. Et ce qui s'est passé en Argentine, et ça c'est beaucoup moins connu, autour des années, je crois, 90-2000 peut-être, vous allez nous le
2002.
Donc Joël, on peut peut-être parler, ouvrir ce dossier des mutilations de bétail. Je crois que ça a commencé aux États-Unis dans le Colorado avec un cheval qui s'appelait Sleepy. Et oui. C'était le début d'un vraiment d'une suite macabre.
Ça a été le premier cas d'une longue et dramatique suite de mutilation de bétail. Le cas de la jument Sleepy est le premier qui est fait l'objet d'une publication à grande échelle. J'ai le souvenir d'une photo où on voit une dame qui était la propriétaire de Sleepy penché sur le cadavre de la pauvre bête. Ça, c'était dans les années 70, au début des années 70. On n'avait jamais entendu parler de ça avant, du moins à grande échelle. Et puis, ensuite, ces mutilations de bétail, alors principalement de bovins, mais pas seulement de bovins, se sont multipliés dans de nombreux États des États-Unis. Et puis, ça constitue un sujet extrêmement inquiétant, douloureux, qui a fait l'objet d'études par des gens qui ont bien voulu s'intéresser à ça. Les cas étaient tellement nombreux et ils se ressemblaient tellement entre eux qu'il existe une littérature là-dessus. Par exemple, on peut citer l'œuvre de Linda O. Linda O, c'est une dame, une américaine, qui a produit aux alentours de 1990 un livre, tout d'abord une vidéo qui s'appelait Strange Harvest. Strange Harvest, ça veut dire étrange récolte. Et dans cette vidéo, elle montrait, elle interviewait des acteurs locaux, des propriétaires de bétail, qui avaient vu leurs animaux massacrés littéralement par on ne sait quoi. Alors, ce que ces animaux subissaient, c'était presque toujours la même chose. On retrouvait les animaux morts dans les endroits où ils étaient censés passer tranquillement la nuit. On les trouvait couchés avec des parties de leur corps enlevées, disparues, comme coupées avec un matériel de chirurgie laser. C'est-à-dire que autour des ablations, il n'y avait pas de sang, jamais de sang, jamais de sang. Mais avant, il faut dire que autour des animaux eux-mêmes, autour des carcasses de ces animaux, on ne trouvait pas de traces de pas, ni de traces de pneus. L'herbe n'était même pas foulée. Il n'y avait aucun moyen de démarrer une enquête sur ce qui aurait pu être une attaque conventionnelle par des gens, par des fous qui s'en seraient pris au bétail. L'animal était toujours retrouvé mort, avec des parties de son corps enlevées, comme si les agresseurs avaient utilisé un matériel de chirurgie laser qui cautérise automatiquement les plaies autour des découpes et ne permet aucun écoulement de sang. Et dans les carcasses de ces malheureux animaux, on ne retrouvait en général pas du tout de sang. Les animaux avaient été vidés de leur sang. Les parties manquantes étaient très souvent les mêmes. Alors ça comprend, par exemple, et surtout, les parties sexuelles, l'anus, un œil ou les yeux, des parties de la gueule, de la gueule de l'animal, de la joue, la langue, voilà, ce qui était complètement incompréhensible. Ça a duré pendant des années et des années. Jamais aucun cas n'a permis de conclure à une attaque par des sadiques, par des fous, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de traces au sol, pas de traces de pas, l'herbe n'était pas foulée, pas de traces de pneus, rien du tout. Et d'une manière quasi générale, les carcasses de ces animaux, vidées de leur sang, encore une fois, n'étaient pas attaquées par les prédateurs naturels. Quand une vache meurt pour des raisons quelconques, à l'endroit où elle passe la nuit, le lendemain, aussitôt, il y a quantité de prédateurs comme des corbeaux qui viennent se repaître de sa dépouille. Mais là, c'était pas le cas. Les dépouilles restaient intactes. elles émettaient peu ou pas du tout d'odeur. Les chiens des gens qui venaient s'approcher des carcasses refusaient de s'approcher de ces carcasses. Il y a eu des cas nombreux dans lesquels, alors ça c'est surtout dans la vague argentine de 2002, mais il y en a aussi des exemples avant ça aux États-Unis. Il y a des gens qui ont laissé leur chien dévorer les bêtes mortes et ça ne marchait pas du tout. Les chiens refusaient de s'approcher des cadavres de ces malheureux bovins. Alors je dis bovins, mais c'était pas uniquement des bovins. Il y a eu des moutons, des chevaux, comme la jument Snippy dont on parlait tout à l'heure. Mais ces animaux mystérieusement morts étaient laissés de côté par les prédateurs volants, comme les corbeaux, mais aussi par les insectes. Normalement, un animal mort, il est très vite pris en compte par la faune locale, y compris des insectes, qui ouais. assez rapidement font disparaître la viande des cadavres. Là, ouais. c'était pas le cas. Ouais. Pas d'insectes, pas de corbeaux, pas de d'animaux comme les coyotes, les coyotes aux États-Unis sont très actifs sur les animaux morts en général, mais là c'était pas le cas. Et les animaux domestiques comme les chiens des enquêteurs se tenaient prudemment à l'écart des carcasses.
Alors ce qui est intéressant, parce que nos auditeurs vont se dire d'accord, ça c'est très intéressant, c'est terrifiant, mais quel rapport avec les ovnis? Eh bien tout simplement, c'est qu'on a vu à plusieurs reprises des ovnis autour des zones où l'on retrouvait du bétail mutilé. Hein.
Oui, il y a quantité de cas dans lesquels les personnes présentes ont vu des objets lumineux. En général, ça se passait la nuit. Je ne sais pas s'il faut en parler au passé.
Ah oui.
On peut supposer que ça continue, mais les informations sont pas très nombreuses dans ce domaine. Mais les gens voyaient ça, et ils voyaient ces objets lumineux à distance. Alors, en gros, le schéma global, c'est ça. Présence, mais pas systématique, hein, simplement dans une bonne proportion des cas, d'objets lumineux juste avant ou juste après la découverte des cadavres, pas de traces au sol et pas d'explication non plus, parce que rien ne permettait d'expliquer ça. Alors, l'une des caractéristiques du phénomène OVNI, c'est que, aussi explicable que ça puisse être, il y a toujours des gros malins pour mettre en avant des explications. Alors là, ça a été le cas, hein, je pense aux vagues de mutilation aux États-Unis dans les années 70, 80... il y avait toujours des explications qui couraient. Des responsables locaux qui minimisaient les choses et mettaient en avant des explications qui ne tenaient jamais debout, mais qui permettaient de calmer la population. telle vache, on l'a retrouvée morte, elle n'avait plus de, n'avait plus les pies, la zone rectale, un œil, etc. Mais bon, il y a des explications naturelles, alors sont ce qu'on peut imaginer, hein. Ça va jusqu'à l'intervention de sectes qui auraient été supposées intéressées par le massacre des animaux dans les champs la nuit.
On parlait de, je crois, de sectes satanistes, et c'est une explication qu'on nous a resservie en France lors de la vague de mutilation équine des chevaux.
Oui.
Sans apporter la moindre preuve, bien sûr.
Absolument, c'est toujours pareil. Alors, ces explications bidons, extrêmement faciles, mais nullement argumentées, elles ont d'abord été constatées aux États-Unis des années 70, et puis, effectivement, ça a continué dans divers pays, et notamment en France, en 2020, puisque l'année dernière, on a connu quantité de cas de mutilation sur, la plupart du temps, des équidés. Aux États-Unis, ça avait surtout été les bovins qui avaient fait les frais de ce phénomène. Mais en France, en 2020, c'était des chevaux, des ânes, des poneys, et puis quelques animaux autres que des équidés aussi, mais surtout des équidés. Et puis, le phénomène a cessé de se manifester à la fin de l'année 2020, et depuis, on n'entend plus parler. Il faut dire que quand ça se produisait, il y a un an, par exemple, on en entendait déjà assez peu parler. Les médias n'étaient pas très, très friands de ça. Malgré tout, ça s'est su parce que les cas étaient très nombreux. Mais le silence des médias était aussi impressionnant que le phénomène lui-même.
Alors, il y a quelques cas, puisque tout de même, on a vu quelques coupures de presse, il y a quelques cas où les éleveurs montaient la garde, évidemment, la nuit auprès de leurs bêtes, où des objets lumineux ont été vus, qu'on a qualifié une fois encore de drones, puisqu'on ne sait pas de quoi il s'agit maintenant. Ben, ce sont des drones, forcément. Donc, il y a toujours cette présence d'objets étranges autour des mutilations d'animaux.
Oui, il y a toujours ce réflexe chez qui ? Quel mot il faut employer là ? Moi je dirais chez les responsables, sur les gens qui sont dans une situation qui leur permet de décrire, d'abord de se documenter sur ce qui se passe, ensuite de décrire les faits, et de les faire connaître. Bon, appelons ça les responsables. Il y a toujours chez eux une tendance à minimiser ou carrément à nier la réalité du phénomène. Personnellement, j'ai transmis au début du mois de septembre 2020, j'ai transmis à un organisme officiel qui était censé s'intéresser à ce drame, une documentation, non pas sur la vague française des mutilations équines de 2020, mais sur la vague de mutilations de bovins en Argentine en 2002, tout simplement parce que il se trouvait que j'avais deux beaucoup d'éléments sur cette vague argentine de 2002, du printemps 2002 pour être plus précis. Donc j'ai transmis ça à un service qui était censé étudier le problème, et je n'ai jamais eu la moindre réponse. Je ne sais pas pourquoi, évidemment. On aurait pu me donner un simple petit coup de téléphone en me disant « Nous avons bien reçu votre dossier. Éventuellement, nous vous en remercions, pourquoi pas ?» Mais non, ça n'a pas été le cas. Ça a été le silence. Je voudrais bien savoir ce que ce dossier est devenu. J'ai pas l'impression qu'il ait été apprécié à sa juste valeur.
Ouais. On peut faire un parallèle entre ce que vous me dites là et ce qui s'est passé sur un autre plan. Alors, je ne sais plus si il y a l'an dernier ou il y a deux ans, à Fessenheim, où des ovnis, ont été signalés au-dessus de la centrale nucléaire. Ça fait l'objet d'un article, puis finalement, silence total depuis. Jean-Claude Bourret lui-même a essayé d'avoir des informations. Excusez-moi l'expression, que dalle.
Alors, ça, c'est un autre problème, mais en même temps, c'est le même. L'événement auquel vous faites allusion s'est déroulé le 24 mai 2000. Alors là, je ne voudrais pas commettre une erreur de date. 2000, combien ? 2018 ?
Oui, ça devait être aux alentours de 2018-2019, je pense.
Ouais. Oui.
Si
on fait une petite pause, je pourrais vérifier en quelques instants. Mais je crois que c'était 2018. Alors voilà ce qui s'est passé. Et ça, c'est énormément intéressant.
Ah, oui.
Parce que c'est complètement vérifiable par pratiquement tout le monde. Hein. Il suffit d'avoir Internet, ce qui est quand même le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, pour vérifier ça. Si vous regardez le site des dernières nouvelles d'Alsace, les dernières nouvelles d'Alsace, c'est pas un petit canard local, hein, c'est un journal qui a une audience considérable en Alsace, évidemment, mais aussi à l'échelle de la France. Si vous regardez le site des dernières nouvelles d'Alsace, DNA en abrégé, dans les jours qui ont suivi le 24 juin 2018, ce serait bien si on vérifiait l'année, mais je suis pratiquement certain que c'est 2018. Vous verrez une nouvelle absolument stupéfiante disant que ce soir-là, 7 personnes qui sont, je crois, j'en suis sûr, 3 gendarmes et 4 agents de sécurité de la centrale, à moins que ce soit 4 gendarmes et 3 agents de sécurité. Bon, ça aussi c'est un point qu'on peut vérifier très rapidement, il me suffirait de 2 minutes pour faire la vérification. Ces sept hommes chargés de garder la centrale ont vu tout d'abord un gros objet qui est descendu. Alors c'était en fin de soirée, hein, tout ça s'est passé, je crois, entre 21h30 et minuit et demi. Ils ont d'abord vu un gros machin qui est apparu au-dessus de la centrale, mais très très bas, et qui a manœuvré au au-dessus de la centrale, à quelques mètres, tout au plus à quelques dizaines de mètres des installations, longuement, puis un autre objet est arrivé, puis d'autres, et finalement ça a été une véritable danse de vie, hein, d'objets volants parfaitement non identifiés, au ras de la centrale. Ça a duré jusque vers minuit. À certains moments, les objets étaient très nombreux et les témoins voyaient d'autres objets tout aussi non identifiés plus loin, de l'autre côté du Rhin, en direction de la Forêt Noire.
Un truc grandiose, franchement.
Ah, c'était complètement grandiose. C'était stupéfiant quand on... Mais la source existe, hein, encore une fois. Le site des dernières nouvelles d'Alsace, à la date du 25 ou 26 mai 2018. Alors, l'un des gendarmes a... Alors, je ne sais pas s'il faut dire a ou aurait... cette apparition d'objets au ras de la centrale. Et c'est Jean-Claude Bourret qui a fait connaître ça parce qu'il a des liens étroits avec les hautes autorités de la gendarmerie nationale.
Il est même colonel de réserve, je crois, de la gendarmerie.
Oui, ouais. Oui, absolument. Donc c'est une nouvelle stupéfiante. Elle a été publiée dans les dernières nouvelles d'Alsace et aussi dans un quotidien qui s'appelle L'Alsace. Bon, c'était une nouvelle incroyable, sensationnelle. Tout le monde connaissait l'existence de la centrale de Fessenheim qui posait des problèmes en raison de son grand âge et des problèmes de sécurité qui inquiétaient bien des gens dans la région et même plus loin. Et puis, le lendemain, quelle suite y a-t-il eu à l'affaire ? Ben, aucune. Le lendemain, le surlendemain, les jours suivants, aucune suite à l'affaire.
Comment cela se fait-il ? Eh bien, vous le saurez en suivant la prochaine édition des Témoins de l'Invisible, la semaine prochaine sur les ondes de Radio Rancière. Je recommande au passage le dernier livre de Joël Ménard, Affrontement extraterrestre, publié aux éditions Le Mercure Dauphinois. Bonne semaine à tous.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, when you're strange, when you're